Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En un temps, en défendant la langue française, où on perd parfois son latin, vous faites un retour aux sources en racontant un poète dont l'œuvre ne vous a pas laissé un ovide dans la tête, bien au contraire. Bonjour Xavier Darcos.
Bonjour.
Alors, vous avez un parcours incroyable, on va en parler aussi dans cette émission. On va parler d'Ovide, ce livre qui sort chez Fayard, personnage complexe, mais beaucoup plus passionnant et beaucoup plus moderne que certains peuvent l'imaginer. Et je sais que ça vous passionne. Mais avant, on va revenir sur votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Xavier Darcos, c'est le 16 septembre 1968. C'est votre première rentrée scolaire où vous êtes professeur. Et je crois que c'est quelque chose qui a été très important pour vous. C'est juste après 1968, la rentrée avait été décalée d'une semaine à cause des événements. Et vous voilà professeur.
Eh bien oui, vous avez raison de dire que c'était une date importante parce que je m'en souviens presque tous les jours. D'abord, parce que j'étais très jeune, je venais d'être nommé professeur, d'avoir mon CAPES, et j'étais vraiment très jeune, j'avais juste 21 ans.
Vous étiez presque, vos élèves étaient presque plus vieux que vous.
Vous ne croiriez pas si bien dire, j'avais un ou deux élèves qui avaient mon âge, puisque j'enseignais en classe terminale, et donc, en effet, c'était un moment difficile. Mais l'émotion, le trac, évidemment, passé, je me suis rendu compte tout de suite que je ne m'étais pas trompé, que c'était bien ma vocation. J'étais heureux d'être avec des gens jeunes, de transmettre, non seulement de transmettre, c'est-à-dire de dire ce que je pouvais savoir d'utile pour eux, mais surtout de recevoir d'eux. Et cet intérêt pour le dialogue avec les jeunes adultes ne s'est jamais démenti. Ça a été vraiment une des passions de ma vie. Encore cet été, mon dernier fils, qui a une vingtaine d'années, avait amené toute une bande de camarades passer l'été avec nous. Tout le monde me dit, mais c'est bien fatigant de passer son temps à faire les courses. Oui, mais j'ai eu un bonheur indicible à être avec une quinzaine de jeunes gens d'une vingtaine d'années qui m'ont parlé du monde d'aujourd'hui et m'ont rendu heureux. Donc vraiment, ce fut ma vocation et j'ai été très heureux comme professeur dans toutes les classes que j'ai eu à assumer. Et comme je dis souvent, j'étais beaucoup plus longtemps professeur que je n'ai été ministre en politique quand même, parce que j'ai quitté l'enseignement en 1992, c'est pratiquement 25 ans sans interruption d'enseignement. Et donc, cette première expérience était rassurante pour moi.
Alors, vos débuts de professeur, c'est au lycée Laure Gatet de Périgueux.
Oui.
Il y a eu une histoire d'ailleurs, parce que ce lycée devait s'appeler Joseph Joubert, et puis il y a eu une bataille, il s'est appelé Laure Gatet.
Alors, j'en regrette pour Joubert, qui est un aphoriste et un intellectuel tout à fait intéressant, mais Laure Gatet était une jeune femme héroïque qui est morte en déportation. Et c'est aussi très honorable d'avoir fait ce choix.
Oui, en même temps, ce lycée, son gymnase est grand, et il accueille les équipes techniques du Tour de France lorsque le Tour arrive à Périgueux.
Mais je vois que vous savez tout, absolument. C'est un très très grand lycée. C'est ce qu'on appelle autrefois les lycées de filles.
Oui.
Quand j'étais lycéen, moi-même à Périgueux, il y avait le lycée de garçons et le lycée de filles. Et on ne mélangeait pas les deux. Et en 1965, les premières filles sont apparues dans le lycée de garçons, il y a eu un mélange. Et c'était on n'imagine pas ce que c'était à cette époque-là, c'était une révolution.
Votre famille, Xavier Darcos, est originaire du Bas-Adès, une région avec des traditions qui perdurent.
Oui, mon grand-père était un homme de la terre, c'était un paysan. Et mon arrière-grand-père plus encore, il était ouvrier agricole. C'est mon père, né en 1900, qui a sorti en quelque sorte de cette tradition agraire, paysanne, sa famille, en devenant un agent du trésor, puis un trésorier payeur général. Mais c'est les valeurs de mon père étaient celles de la paysannerie. Le respect du travail, la discrétion, la mise au service d'autrui, la manière de compter les choses ou de les calculer de manière des plus simples qui soient, le refus des artifices. Enfin, il y avait quelque chose, une espèce de bon sens terrien extrêmement marqué chez mon père, qui nous a beaucoup influencé.
Oui, et puis ce Bas-Adès, il y a des traditions musicales, et lorsqu'on joue du piano, on joue la 40e de Mozart au début, mais pas seulement, parce que la méthode rose propose une autre musique qui vient du Bas-Adès. Les cadets de Gascogne Et c'est l'un des premiers apprentissages du piano par la méthode Rose. Je ne sais pas si vous le saviez, Xavier Darcos.
Mais j'ai oublié parce que j'ai fait la méthode Rose, pour vous dire de A à Z. Hein. J'avais oublié ces cadets de Gascogne.
Voilà, et les cadets de Gascogne ont été immortalisés par Alexandre Dumas et par Cyrano, alors que la compagnie des cadets de Gascogne n'a jamais existé.
Bien entendu, c'est évidemment une fiction.
Alors ensuite, vous avez fait l'université de Bordeaux. C'était aussi quelque chose d'important pour vous, car vous avez vraiment beaucoup travaillé pour devenir professeur, Xavier Darcos.
J'étais assez vite, finalement, j'étais certifié puis agrégé assez jeune. Mais est arrivé au cours de mes études cet événement tout à fait particulier que j'ai compris ce que c'était que des maîtres, en fait. J'avais eu de très bons professeurs que j'aimais bien, j'en avais eu aussi des moins bien, mais enfin, j'ai pris conscience que on pouvait avoir la chance de côtoyer des gens d'exception. Et à l'université de Bordeaux, ce fut le cas. En particulier d'une professeure de latin qui s'appelle mademoiselle Marie Desports, qui était une dame un peu âgée, un peu ronde, enfin qui n'était pas un canon de la beauté, mais qui avait une sorte de profondeur, de charme, de subtilité pour parler de tout ce qui touchait à la culture ancienne, notamment à la poésie latine, qui m'a profondément marqué. Et j'ai découvert donc à l'université le bonheur d'être avec des gens plus savants et plus intelligents que soi. Ça m'a confirmé dans le fait que la vie est un apprentissage, en fait, et qu'il faut essayer, si possible, d'approcher ceux qui ont quelque chose à vous dire.
Oui, et avec beaucoup de travail, puisque vous avez fait une agrégation de lettres classiques, un doctorat en lettres et sciences humaines, qui vous ont conduit à l'enseignement. C'est beaucoup de travail.
C'est-à-dire, j'ai fait d'abord un doctorat de troisième cycle en études latines, puis ensuite j'ai fait un doctorat d'État. En fait, j'ai essayé de ne pas laisser en friche ma discipline. J'avais commencé à m'intéresser à un sujet qui était au fond la littérature latine, mais pas seulement, mais enfin surtout, je trouvais qu'il fallait aller jusqu'au bout de ce que je pouvais savoir dans le secteur que j'avais choisi. Et donc je l'ai fait, mais sans souffrance, c'était plutôt agréable.
Oui, mais vous avez quand même enseigné à Louis le Grand à Paris, ce qui est le sommet pour un professeur, Xavier Darcos.
Alors j'ai été essentiellement professeur de Cagnes, donc en effet, je préparais des étudiantes et des étudiants d'école normale supérieure, d'abord au lycée Montaigne à Bordeaux, et ensuite à la Cagne du lycée Louis le Grand, où tous les élèves étaient plus intelligents et plus savants que moi, mais ils ne me le faisaient pas trop voir, et là, je le disais tout à l'heure, ça a été une période de bonheur, il n'y a pas d'autre mot, d'être devant ces classes, de gens tellement intelligents, tellement travailleurs, tellement originaux pour beaucoup d'entre eux, qui tous ensuite ont fait d'assez belles carrières, qui ont tous en tout fait de très belles études. Je ne sais pas si c'est la même chose que de faire des carrières, mais en fait, ils ont fait de très belles études qui les ont rendus heureux et qui surtout sont restés presque tous en contact avec moi. Ils m'envoient encore des cartes. Alors, je reçois des cartes de naissance ou de vœux, je ne sais plus très bien de qui il s'agit. Mais il y avait une communauté, je dirais, des cagneux et de cet esprit de classe, un peu difficile quand même. Préparer le concours normal dessus pour ces jeunes gens, c'était vraiment, c'était un peu de bagne, mais qui créait un esprit de corps. Il y avait un esprit de cordée, si vous voulez, quoi, que j'aimais beaucoup.
Oui, et dans ceux qui ont réussi, il y en a eu beaucoup, mais le premier qui a réussi, qui est lauréat du concours général en composition de vers latin, c'est un certain Baudelaire.
C'est un certain Baudelaire. Rimbaud aussi n'était pas mauvais en vers latin, oui. Vous savez.
Mais Baudelaire a réussi.
Il a eu le concours général, absolument.
Et puis ensuite, vous avez été inspecteur de l'éducation nationale, inspecteur général. Ça aussi, c'est aussi une autre chose.
Alors là aussi, c'est arrivé assez tôt. En 92, j'étais assez jeune pour devenir inspecteur général, mais bon, j'étais pas tout à fait prévu que ça vienne si vite, c'est venu comme cela. Et là, encore une fois, je me suis retrouvé dans les classes, à voir comment enseigner mes confrères. C'était une période intéressante aussi, mais j'ai rapidement été happé après par la vie publique, parce que c'est l'époque où François Bayrou a été nommé ministre de l'Éducation nationale. Il m'a demandé de venir diriger son cabinet, donc je me suis retrouvé embarqué dans une vie d'administration, dans une vie politique, qui a été la deuxième grande phase de ma carrière, en fait.
Et vous en gardez un bon souvenir, Xavier Darcos ?
C'était dur, mais François Bayrou était un homme d'un très grand agrément, de contact. L'esprit de réforme était plus accepté qu'aujourd'hui, me semble-t-il. Donc on pouvait petit à petit imposer des évolutions qui s'imposaient de soi. Ça n'a pas été trop trop dur, encore que la suite, quand j'ai été à mon tour, à la place de François Bayrou, lorsque j'ai été à mon tour ministre de l'Éducation nationale, a été un peu plus sévère. Le climat était plus difficile, les relations étaient plus complexes, oui.
Oui, mais il y a eu beaucoup d'autres choses aussi dans votre vie. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 23 novembre 1990. À tout de suite sur Sud Radio avec Xavier Darcos.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Xavier Darcos. Il y a ce livre Ovide chez Fayard dont on va parler tout à l'heure. Mais on revient à une date importante pour vous, c'est le 23 novembre 1990. C'est l'inauguration du premier salon européen du livre gourmand de Périgueux.
Alors vous me rappelez la date. Je me souviens très bien du salon international du gourmand. En fait, quelle était l'idée? À ce moment-là, j'étais maire adjoint à Périgueux, maire adjoint à la culture. Yves Guénin m'avait demandé de prendre cette mission. Et je lui dis, il faut qu'on fasse quelque chose autour du livre, quand même, dans une ville comme la nôtre. Nous avons un patrimoine formidable, un patrimoine architectural, un patrimoine préhistorique, un patrimoine gastronomique. Mais on ne fait pas grand-chose pour le livre. Il m'a dit, oui, mais enfin, ça n'intéresse personne, les salons de livres, me dit Guénin. J'ai dit, mais il faudrait trouver un livre qui corresponde à ce qu'au fond, les Périgourdins incarnent. Quand on pense Périgord, qu'est-ce qu'on pense? On pense gastronomie, truffes, foie gras, vie agréable. Et on a raison, parce que le Périgord est un pays de cocagne. Et donc, d'où l'idée du salon du livre gourmand.
Et qui a été une première.
Qui a été une première et qui a extraordinairement bien marché. Nous avons été les premiers surpris par la manière dont ce salon a accueilli je ne sais plus combien de milliers de personnes. Nous avons vendu des livres à n'en plus finir. Et j'ai découvert à cette occasion que le monde de l'édition du livre de cuisine, de gastronomie, des livres de beaux-arts autour de la cuisine était extrêmement important. Et il y a plus d'un livre par jour qui paraît dans ce domaine. Et donc on pouvait tous les ans renouveler complètement les présentations des divers livres parus et donc attirer un public régulier. Et puis surtout, nous avons eu la chance que très rapidement les grands chefs, les figures de la cuisine française s'intéressent à cela. Et sont pratiquement tout le monde est venu. Nous n'avons pas eu un grand chef quelconque qui ne soit pas venu au moins un jour ou deux à Périgueux. Il y en a même avec qui je suis devenu très ami, notamment Alain Ducasse. Nous sommes devenus presque intimes. Je suis même le parrain de son fils, pour tout vous dire, à cause de cette histoire. Donc, ça a laissé de grandes traces dans ma vie, en effet.
Et c'est arrivé à un moment où les cuisiniers commençaient à être stars.
Absolument.
Ça a commencé dans les années 70 avec Bocuse, avec Le Nôtre, avec Michel Guérard, d'ailleurs qui vendaient des livres qui se vendent toujours aujourd'hui. Alors, c'était pas encore le temps de Top Chef.
Non, pas encore, non.
Et même la télévision, personne n'y croyait. Souvenez-vous des premières émissions de la télévision, on pense que c'est Art et Magie de la Cuisine avec Raymond Oliver dans les années 50. Non, il y en a eu une autre avant. C'est une émission avec un comédien qui s'appelait Georges Jadet, qui était Monsieur X et qui préparait des recettes de cuisine.
Incroyable.
Ça a été totalement oublié.
Ah ouais, incroyable.
Alors, la cuisine du Périgord, bon, bah, ça se prête à ça. Et je crois que vous êtes un amateur de cuisine, de vin, membre du Club des 100.
Oui, je vois qu'on ne pourrait vous cacher. J'aime beaucoup les bonnes choses, évidemment, je suis gourmand. Mais j'aime aussi l'esprit de cuisine. Alors ça, c'est un héritage maternel. J'ai beaucoup d'héritage maternel. L'amour de la musique et l'amour de la cuisine. Et même de la littérature, d'ailleurs. Et ma maman était une cuisinière totalement exceptionnel. Enfin, c'est ce que disent tous les fils, oui. Il paraît. Mais enfin bon, en tous les cas, moi je le confirme en ce qui concerne ma famille. Et donc, on avait l'habitude de manger très très bien et de parler avec maman ensuite de ses recettes. Et donc, j'ai ce milieu du bien-vivre, de la cuisine, la gastronomie locale, m'allait assez bien. Et mon père était un grand amateur de vin, un collectionneur de bonnes bouteilles aussi. Donc, j'étais préparé à ça. Alors, ce qui est extraordinaire sur le salon du livre gourmand, je ne sais pas si vous allez en parler, mais j'anticipe, c'est que comme c'est un réseau tout à fait incroyable, le réseau des gens qui font des livres de gastronomie, un éditeur me dit un jour, mais tu sais que l'épouse de M. Helmut Kohl, le chancelier allemand, qui s'appelle Hannelore Kohl, a écrit un livre de recettes. Moi j'ai dit, je ne sais pas du tout. Il dit, et si on l'invitait? Alors moi j'ai dit, pourquoi pas, et on peut toujours écrire à Madame Kohl et lui dire, est-ce que vous voudriez venir à Périgueux, etc. Donc je passe par l'ambassade, ça dure un peu, puis un jour je reçois une lettre absolument charmante de cette dame qui dit, mais bien entendu, je viens. Et puis deux jours après, l'ambassadeur d'Allemagne à Paris m'appelle et me dit, écoutez, Madame Kohl vient à Périgueux, mais comme c'est un week-end, son mari, Helmut Kohl, chancelier en exercice, s'il vous plaît, viendra. Ah bon, très bien. Alors je me dis quand même, il faut que je prévienne le préfet, l'administration. Donc je finis par avoir quelqu'un à l'Élysée. J'ai dit, écoutez, voilà, il y a Helmut Kohl et sa femme qui viennent passer le week-end à Paris. Comment ça? Mais c'est impossible. Il faut le dire au président. Et je reçois quelques jours après un coup de téléphone du président Chirac lui-même. Allô, écoutez, il faut que je te dise quelque chose. Il paraît que Kohl vient chez toi. Eh bien, je vais venir aussi. Enfin, et du coup, on s'est retrouvé un week-end avec Helmut Kohl et sa femme, Jacques Chirac et sa femme. Il y a eu une espèce de petit sommet improvisé là. Du coup, Bernard Pivot était venu faire en direct son émission apostrophe avec Anne-Laure Cole comme invitée. Voilà, l'incroyable mystère de la passion de la cuisine qui a provoqué une espèce de mini-sommet franco-allemand dans ma bonne ville de Périgueux en 1996.
Alors, il y a une autre passion que vous avez, c'est la musique. Bon, il y a la Truffe d'Argent à Périgueux qui est un concours de jeunes chanteurs, comme oui. Il y en a beaucoup en France, mais qui a été bien avant les autres. Et vous, vous êtes, je crois, organiste amateur.
Exactement. Très amateur. Hein, oui. Quand j'étais jeune, j'accompagnais les offices, je jouais assez régulièrement sur un orgue à Périgueux. Je me suis occupé d'ailleurs aussi ensuite de restauration d'orgues parce que ces orgues étaient assez fatigués.
Et vous avez été lauréat de la Fondation Sylvain Floira, je crois.
Oui, à ce titre, vous avez plus de mémoire que moi pratiquement de ma propre vie. Oui, donc je m'étais intéressé à la restauration des orgues et donc j'ai lancé une association pour la restauration des orgues en Périgord qui a attiré l'attention de Sylvain Floira et qui m'a donné un prix de la vocation. Et donc je joue un peu d'orgue, enfin je ne suis pas un grand organiste, je suis quelqu'un qui aime de temps en autre jouer un peu d'orgue.
Oui, mais d'ailleurs c'est le seul musicien de service dans la musique et il combine quelquefois à l'église cette activité avec celle de chef du chœur.
Oui, alors j'étais pas chef de chœur, il y avait un chef de chœur, un personnage absolument pittoresque qui a laissé beaucoup de souvenirs dans ma vie, qui s'appelait Monsieur Paul Coiffe, qui était un personnage extrêmement exubérant, que j'adorais d'ailleurs. Et ensemble, nous avons animé beaucoup, beaucoup de cérémonies de messes, de fêtes de Noël, de Pâques, d'événements en toute nature, avec la chorale et moi l'accompagnant. Là aussi, c'est des très beaux souvenirs. J'étais jeune, hein, c'est entre 18 et 22 ans. Par là.
Et les plus grandes orgues du monde, je me suis un peu renseigné, elles sont au Radio City Music Hall de New York, où il y a des spectacles avec des girls. C'est soudain deux grandes orgues qui sortent du mur et avec des musiciens.
Alors, il me semble que c'est celui sur lequel Dupré avait fait son premier grand concert, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Il était parti aux États-Unis pour jouer sur le plus grand orgue du monde, voilà. Je pense que c'est celui-là.
C'est Radio City Music Hall, qui est une salle de 6000 places. Alors, la musique en Dordogne sont des traditions, et il y a une musique qui correspond à la fête des bœufs gras à Bazas, si on l'écoute. Ça, ce sont des musiques traditionnelles que vous connaissez bien, Xavier Kerkhoff.
Et je connais aussi la fête du bœuf gras, oui. Non seulement parce que, comme vous l'avez dit, ma famille est bazadaise, mais parce que pendant ma vie politique, j'ai été aussi amené par deux fois à conduire des listes électorales dans la région. Et il fallait, dans la région Aquitaine, lorsqu'on était en campagne électorale, il fallait passer par la fête du bœuf gras, hein, et on ne pouvait pas y échapper. Et donc, vous avez devant vous quelqu'un qui a été intronisé dans la confrérie du bœuf gras avec mon adversaire et néanmoins ami Alain Rousset. Nous avons été tous les deux intronisés à la confrérie du bœuf gras de Bazas, du bœuf gras de Bazas, pendant la campagne électorale de 2004, si je ne m'abuse.
Oui, c'est une lourde responsabilité.
Ah, vous vous rendez compte.
Et en même temps, dans cette région, cette musique, vous avez présidé l'ADAM 24, qui est une association qui défend la musique en Dordogne. Et ça, c'est une tradition importante pour vous.
Oui, en fait, à partir de ma passion pour les orgues, de mon intérêt pour les restaurer, on a créé avec toutes sortes d'amis une sorte de structure qui s'inscrivait dans la demande de l'État. D'ailleurs, parce que c'était l'époque de ce qu'on appelait le plan Landowski, qui voulait que dans chaque région il y ait un orchestre et dans chaque département il y ait une association qui fasse vivre la musique et qui conduise d'ailleurs les auditeurs ensuite allaient écouter les concerts de cet orchestre dans le chef-lieu régional. Et donc je me suis trouvé à m'occuper de cette ADAM 24, l'association pour la défense et pour la diffusion et l'animation musicale en Dordogne. Et là aussi, ce sont des souvenirs formidables de petits concerts dans des églises, où on amenait des chaises, où on bricolait, où on installait des éclairages. Enfin, c'était vraiment et il y avait tellement d'endroits merveilleux en Dordogne pour le faire, qui est une... Comme vous savez, c'est un département qui est truffé, c'est le cas de le dire, de magnifiques sites romans et de très très belles chapelles. Et on a fait ça pendant presque une dizaine d'années, c'est des très bons souvenirs. Oui.
Et ce sont les nourritures terrestres et les nourritures intellectuelles que vous avez poursuivies avec une autre date très importante pour vous, le 13 juin 2013. A tout de suite sur Sud Radio avec Xavier Darcos.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Xavier Darcos. Tout à l'heure, on parlera de Ovide chez Fayard, un sujet beaucoup plus moderne qu'on peut l'imaginer. Mais là, on revient à une date que vous n'avez forcément pas oubliée, c'est le 13 juin 2013.
Alors celle-là, je m'en souviens parce que c'est la date de mon élection à l'Académie française.
Vous vous souvenez de l'instant où vous avez appris cette élection ?
Je m'en souviens d'autant plus que j'ai eu un malaise. J'étais dans mon bureau de président de l'Institut français, j'attendais des nouvelles. Et j'ai eu un coup de téléphone me l'annonçant, et je suis tombé dans les pommes. Une espèce d'émotion absurde d'ailleurs, donc je m'en souviens très bien.
Et pourquoi cette candidature justement à l'Académie française, Xavier Darcos ? C'est venu comment ?
Bah, en fait, je m'occupais depuis très longtemps de littérature, et surtout c'était l'époque où j'étais très engagé dans la défense de la francophonie, puisque je présidais cet établissement public qui s'appelle l'Institut français, qui coordonne l'action culturelle de la France à l'étranger, la politique culturelle extérieure de la France. J'avais quand même déjà écrit beaucoup de choses. J'étais déjà présent au sein de l'Institut de France, puisque j'étais secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Et c'est vrai que j'en rêvais un peu, quoi. Qui ne rêve pas de pouvoir accéder au Graal ? Donc j'ai été candidat à l'Académie française, encouragé par beaucoup de mes actuels confrères, sinon je n'aurais pas pris un risque pareil. Et j'ai été élu assez facilement, je dois le dire. Évidemment, c'était une joie de ma vie, peut-être la plus marquante au fond, pratiquement, parce que quand même, c'était une consécration formidable. Et j'avais même le sentiment que c'était presque trop, mais enfin, j'étais content d'y arriver. Voilà.
Oui, vous avez été élu au fauteuil de Pierre-Jean Rémy,
oui,
qui a été président de la BNF, qui est un monsieur incroyable, parce que chaque fois que je l'appelais pour avoir des anecdotes pour les journaux, il était toujours en train d'écrire un livre.
Oui, il écrivait tout le temps.
Tout le temps.
Et alors, si même on peut appeler ça écrire, parce qu'il avait des énormes blocs de feuilles, et il écrivait à toute vitesse, et il faisait 5 lignes par feuille, et la feuille tombait à côté. C'était un graphomane. Et d'ailleurs, l'une des difficultés que j'ai eues pour lui succéder, c'est qu'il fallait que je fisse son éloge, ce que je ne pouvais faire facilement parce que je l'ai très bien connu, nous étions amis, nous connaissions notamment à cause de sa grande passion pour l'opéra, que je partage. Mais faire la synthèse de tout ce qu'il avait pu écrire était presque un pari impossible. Il a écrit, je ne sais pas, 40 ou 50 romans sous toutes sortes de pseudonymes. Il a même écrit des romans érotiques sous un pseudonyme. Ouais. C'était un peu compliqué d'en faire la synthèse. Mais je dois dire que parmi les raisons qui m'avaient donné du bonheur à être académicien français, il y avait de succéder à Pierre-Jean Rémy, avec qui j'étais en relation amicale depuis de très nombreuses années.
Et puis, vous avez été reçu par un autre amoureux des mots qui nous manque beaucoup, qui est Jean-Loup Dabadie.
Ah oui, c'est la mort de Dabadie m'a absolument crucifié. Dabadie était l'un des hommes les plus adorables que j'ai jamais rencontrés. C'est lui qui a souhaité me recevoir. Il a fait un discours d'une gentillesse, d'une drôlerie formidable. Et nous sommes devenus amis d'enfance sur le tard, si je puis dire. On s'appelait énormément, on était très très liés, jusque quelques jours avant sa mort, très, très imprévu, hein. Et c'est une grande tristesse pour moi. Enfin bon, j'ai ce souvenir merveilleux de la générosité, de la drôlerie, de la profondeur aussi, avec laquelle Jean-Louis Dabadie m'a reçu sous la coupole de l'Académie française.
Alors vous avez bien sûr le costume traditionnel, l'habit vert, mais aussi l'épée. Et l'épée, comme chaque nouvel élu l'a choisi, vous aviez choisi une épée liée à vos épreuves face à l'adversité, Xavier Darcos.
Oui, parce que quand on raconte une vie, on retient que les bons souvenirs, mais comme tout le monde, comme tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, comme tout un chacun, j'ai eu des épreuves, et même des épreuves très dures dans ma vie. J'ai toujours pensé que le truisme qu'on entend toujours, à savoir que les épreuves endurcissent, c'est vrai au fond, il faut un peu souffrir pour se construire. Et donc j'avais choisi comme devise « Per aspera ad astra », ce qui signifie « à travers les difficultés, on peut monter jusqu'aux astres », qui est une sorte de proverbe latin. Et j'ai voulu que l'épée, qui a été conçue par un très très grand bijoutier de la place Vendôme, qui s'appelle Monsieur Baumer, que cette épée reflète cela, qu'on monte vers les étoiles, mais que c'est pas si facile.
Il y a aussi sur cette épée, Xavier Darcos, une évocation du bassin d'Arcachon et des dunes du Pilard.
Absolument, les lieux qui comptent pour moi, l'Aquitaine, le bassin d'Arcachon, et puis il y a aussi une phrase qui compte beaucoup pour moi. J'ai perdu au milieu de mon existence ma première épouse. J'ai eu la chance d'en avoir de me remarier quelques années plus tard avec une femme très jeune. beaucoup plus jeune que moi, j'entends, Laure, et nous sommes, nous avons pris pour devise Tibi or not to be. Être avec toi ou n'être pas. Et je l'ai marqué évidemment sur cette épée aussi, comme hommage à la jouvence que m'a apporté ma formidable épouse Laure Darcos, qui est aujourd'hui sénatrice de l'Essonne, qui a fait sa carrière de son côté aussi, et qui m'a redonné le goût de la vie.
Oui, et alors il faut savoir que les dunes du Pilat ont une particularité, c'est la plage que l'on voit le plus sur Instagram.
Ah bon,
il y a 2 millions de visiteurs par an, c'est oui. Un record.
Ah, c'est effrayant, alors cet été, moi donc je passe toutes mes vacances sur le bassin d'Arcachon, oui. J'ai une petite maison, cet été, quand on est sur un bateau, on croit qu'il y a sur la dune du Pilat, on voit des espèces de taches noires, on dit qu'est-ce que se passe, en fait c'est comme une fourmilière, en fait il y a des dizaines de milliers de personnes qui arpentent cette dune tout le la journée, et qui est sans doute un des lieux les plus visités de France, je ne sais pas. Enfin, c'est interminable, c'est une foule qui est sur la dune du Pilat. Donc ça ne m'étonne pas qu'on la voit sur Instagram.
Oui, il y a des tas de légendes qui courent sur elle, on dit qu'il y a des trésors qui sont dissimulés dessous depuis des centaines d'années.
Ouais, il faudrait que je leur compte. Je souhaite bien du plaisir à celui qui voudra aller creuser la dune pour essayer de trouver ce trésor.
Voilà. Alors, cette entrée à l'Académie française, elle correspond aussi à un combat que vous avez mené déjà lorsque vous n'étiez plus ministre. C'est votre amour pour la langue française et la défense de la langue française.
Absolument.
Ça, c'est important pour
vous.
Oui.
Je suis pas du tout fermé aux langues étrangères, ni à la nécessité de communiquer de manière internationale, mais même à ce globish que les gens utilisent dans les aéroports. Très bien, il faut cela. Mais je suis très attaché à la langue française, pour deux raisons qui vont de soi, d'ailleurs, qui s'imposent à la raison lorsqu'on y réfléchit. La première, c'est que la langue porte l'histoire, et qu'il y a dans la langue française une richesse étymologique, un passé, une force structurelle qui serait une perte énorme si elle s'affadissait. Et puis l'autre aussi, c'est parce que la langue française s'est exprimée dans une littérature, dans une écriture, dans des arts qui sont, je crois, parmi les plus importants au monde. Lorsque vous voyagez, je l'ai fait beaucoup lorsque j'étais ministre de la Coopération ou lorsque j'étais président de l'Institut français, personne ne conteste que la France puisse parler littérature ou art. On considère que c'est une nation littéraire. Et donc vous pouvez difficilement vous mettre à défendre ce qu'est la France, ou en tous les cas, la défendre, à manifester votre amour de la France, et vous ne manifestez pas votre amour pour sa langue. Donc je suis un grand défenseur en effet de la langue française, cette défense ne s'inscrivant dans aucun combat contre notre langue, bien au contraire.
Non, mais il y a quand même des mots aujourd'hui qui ne sont plus français qui s'imposent. Je pense à cluster parce que personne ne sait ce que ça veut dire, et à d'autres mots. Moi, quand une attachée de presse me propose un rendez-vous téléphonique qu'elle appelle un phoneur, je fais mine de ne pas comprendre. Et ça, c'est un danger, Xavier Darcos.
Ouais, cluster, c'est existé en musique depuis longtemps. Oui. Oui, bien sûr, c'est un danger. D'ailleurs, le combat que l'on peut mener pour défendre la langue française, c'est le même combat que sans doute mène, je sais pas, un professeur à Oxford ou à Cambridge, pour défendre la langue anglaise, parce que toutes ces langues de grande culture sont assaillies par une vulgarisation, par un mélange des genres qui les affaiblit. C'est vrai aussi pour l'allemand, une langue qui a beaucoup souffert de la mauvaise utilisation de sa flexion, des cas. Enfin, donc, les grandes langues de culture ont le même sujet de que la langue française, il faut défendre son intégrité. Et voilà pourquoi je crois le projet présidentiel de faire à Villers-Cotterêts une grande maison de la francophonie qui à la fois illustre la valeur de la langue française et sa dimension internationale me paraît très bienvenue.
Alors, vous avez été ambassadeur pour le rayonnement du français à l'étranger.
Oui.
Et vous le devez à quelqu'un qui, avant de devenir Premier ministre et puis ministre, et a été une vedette de télévision.
À côté de moi, un nouveau candidat, M. Laurent Fabius, qui sera dans quelques instants interrogé en littérature et qui a choisi, vous vous en doutez, le jumping comme épreuve sportive.
Alors, ça se passe en 70, c'est Pierre Bellemare qui, dans son
oui,
émission...
Oui, c'est la tête et les jambes, c'est
non,
ça
c'est Cavalier Seul, l'émission qui a succès. Et Laurent Fabius est candidat, il va tenir 5 semaines, gagner 30 000 francs. Il est à l'époque, il fait son service militaire dans la marine, et il va même recevoir à bord du porte-avions où il est à Toulon, un coup de fil de Georges Pompidou qui va le féliciter, puisque Pompidou était amateur de littérature.
Un vrai destin.
un vrai destin. Et il dit aujourd'hui que quand il regarde cette émission et les questions en littérature qu'on lui a posées, il ne comprend même pas les questions.
Pourtant, alors, quand je suis arrivé à la Cagne de Louis le Grand, dont vous parliez tout à l'heure, un de mes prédécesseurs, qui s'appelait M. Netzer, qui a été un grand professeur de Cagne, m'a dit « Ah, vous savez, nous avons eu des gens très célèbres ici, nous avons même eu Laurent Fabius, qui était dans cette classe, cette K2. » Et vous savez ce qui était extraordinaire avec Laurent Fabius, c'est que le samedi, il arrivait dans une tenue un peu négligée, parce que aussitôt après, il allait s'entraîner, il était obligé d'aller monter son cheval, donc parfois il arrivait avec des bottes le samedi, à mes cours, et il repartait. Enfin, donc le souvenir que Laurent Fabius a laissé, mis à part que ce fut un cadieux extrêmement brillant, puisqu'il a été un normalien tout jeune, c'est qu'il venait en tenue de cavalier à Louis le Grand le samedi matin.
Et à toutes les activités que vous avez eues, Xavier Darcos, il faut ajouter maintenant celle de chancelier de l'Institut de France, qui est quelque chose de très important, parce que c'est vous qui coordonnez les rapports de l'Académie avec l'État.
Alors, c'est une mission méconnue du grand public, mais en effet assez lourde. C'est-à-dire que le chancelier de l'Institut, il gère, en gros, d'abord ce qui est commun à toutes les académies. Il est là pour se mettre au service des académies. Ce sont les académies qui comptent dans l'Institut.
Cinq académies, quand même.
Les cinq académies, elles qui comptent, ce sont les académiciens qui comptent. Enfin, il faut bien qu'elles aient des lieux pour travailler, il faut bien qu'elles aient des services, il faut bien que les biens communs soient assurés. Donc, le chancelier s'occupe de cela. Et par ailleurs, il est l'ordonnateur de l'ensemble de ces actions mutuelles, et donc il est l'interlocuteur de l'Institut face à toutes les instances publiques, officielles. Et puis aussi, l'Institut, par lui-même, indépendamment de l'Académie, est propriétaire d'un certain nombre de domaines, de châteaux, d'institutions de toute nature, que le chancelier doit donc gérer. Et enfin, l'Institut abrite un grand nombre de fondations, des fondations abritées, qui sont des sorte de ligne budgétaire dans le budget de l'Institut, et le chancelier de l'Institut est de droit le président de toutes ces fondations. Donc finalement, c'est une charge assez lourde, pas très connue du grand public, mais lourde et très honorable, puisqu'elle est le résultat du vote des représentants de toutes les académies.
Oui, on a l'impression que les académies, ce sont des vieilles dames, pas du tout.
Pas du tout. Alors là, c'est une... Écoutez, c'est pas pour défendre à tout prix ma maison, mais moi je suis au contraire tous les jours sidéré par l'extraordinaire souplesse intellectuelle, vivacité, drôlerie, modernité de l'immense majorité de mes confrères. Nous avons dans l'académie toutes les disciplines, des peintres, des musiciens, des prix Nobel de physique, des mathématiciens, des écrivains, des historiens, des juristes, tout ce qu'on peut imaginer. Bon. Et tous ces gens-là se côtoient, sont confrères. Et c'est une sorte de gigantesque parlement des savants, dans toutes les disciplines possibles imaginables. Et c'est une sorte de cité idéale, au fond. Où des gens si différents, même sur le plan politique, sur le plan des idées, sur le plan des centres d'intérêt, arrivent à vivre dans une merveilleuse harmonie. Et je trouve que c'est une grande chance d'avoir eu cet honneur d'avoir à être chanceux de l'Institut pendant quelques années.
Voilà. Et donc, vous avez toutes ces activités et vous trouvez le temps d'écrire. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 26 août 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Xavier Darcos.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Xavier Darcos. On a parlé du passé et le présent, c'est Ovide, Désirer, Renaître, Survivre, un livre que vous publiez chez Fayard. Alors, d'abord, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Ovide, c'est un poète latin du temps de l'Empire romain qui a vécu un peu avant Jésus-Christ et un peu après Jésus-Christ.
Oui, alors c'est la deuxième génération, en fait. Lorsqu'il est né pratiquement au moment où César est assassiné, c'est-à-dire la fin de la République, et où l'Empire va vraiment commencer. Et donc, il est un peu plus tard que, par exemple, un homme comme Virgile, la grande figure poétique précédente.
Qu'on connaît plus que Ovide au départ.
Oui, c'est ça. Mais je veux dire, Virgile a 27 ans, donc c'est la dernière génération. Il a vécu à cheval sur les deux siècles. Il a connu l'Empire, évidemment. Mais surtout, il a connu à la fois une première partie de sa vie de grand seigneur, dans une famille riche, un auteur mondain, un auteur adulé, et puis un jour, brutalement, en l'an 8 après Jésus-Christ, il a été exilé.
Voilà. Et d'ailleurs, relégué pour des tas de raisons qu'on va expliquer, mais surtout, c'est seulement en 2017 qu'il a été réhabilité.
Ah, je vois que vous êtes bien informé. Il a été relégué, il est parti au bout du monde en relégation, en exil, où il a été atrocement malheureux, où il a écrit une poésie d'exilé qui a inspiré pratiquement tous les poètes de l'exil après lui jusqu'à nos jours. Et cette relégation L'interdiction de revenir jamais à Rome a été levée par la municipalité de Rome en 2017, c'est-à-dire 2000 ans après sa mort. Je vois que vous êtes bien informé.
Alors, Ovid est très présent dans votre vie, et pas seulement à travers ce livre, Xavier Darcos, puisque je crois que votre thèse de doctorat, c'était le sentiment de mort chez Ovid.
Oui, l'Ovid et la mort. En fait, je me suis intéressé à Ovid, je sais comment, peut-être parce que j'ai trouvé étonnant, mais je le trouve toujours d'ailleurs, la diversité incroyable de cette existence et de cette œuvre. Puisqu'il y a une œuvre, comme vous l'avez dit, érotique, disons, une œuvre de ses premiers débuts, qui, l'art d'aimer, que tout le monde connaît, qui est assez coquin, assez drôle d'ailleurs, avec beaucoup d'anecdotes, bon, les remèdes à l'amour, une littérature d'amour qui est même été un peu licencieuse, et certains pensent aussi que l'une des raisons pour laquelle plus tard il a été exilé, c'est qu'Auguste à un moment voulait un peu de restauration morale et il voulait se débarrasser des écrivains supposés libertins. En tous les cas, il y a cette première partie, qui est souvent la plus connue. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie qui est une sorte de volonté de s'imposer comme un poète officiel. Donc, il décrit à la fois les métamorphoses, un gigantesque fresque dont nous allons dire un mot, je pense, qui est une œuvre absolument sidérante, il faut bien dire. Bon. Et aussi une œuvre consacrée à célébrer les grandes fêtes romaines, à essayer de comprendre pourquoi elles sont là, quelles sont leurs origines, comment elles se passent. Puis, il est exilé. Et troisième partie de ce triptyque d'une vie, les œuvres d'exil, les Tristes et les Pontiques. Les Pontiques parce qu'il est exilé sur le Pont Euxin, l'actuelle mer Noire, où il invente en fait la poésie d'exil qui inspira Dubélé, qui inspira jusqu'à Mendelssohn, ce poète russe envoyé au goulag.
Et même
Victor Hugo, bien entendu. Donc il invente au fond la littérature de l'exil. Est-ce qu'il y a une autre œuvre au fond, aussi diverse, aussi complexe, et est-ce qu'il y a une autre vie aussi étrange quand même que celle d'Ovid? Et donc c'est au fond c'est d'abord l'homme, le mystère d'une vie, de ce triptyque, de cette brisure qui m'a attiré à lui.
Et en même temps, quand vous parlez de sa frivolité, qui est un mélange de frivolité et de maîtrise littéraire, bah finalement, ce qu'il a écrit, il est presque l'ancêtre du théâtre de boulevard. C'est-à-dire, Phédo, finalement, n'a fait que s'inspirer d'Ovide.
Oui, il y a beaucoup de scènes très amusantes. Alors, on retrouve évidemment tous les lieux communs de l'amoureux sous le balcon, des artifices par lesquels il faut séduire la dame qui est de compagnie de la belle qu'on veut avoir. Où est-ce qu'il faut l'inviter? Dans quel lieu il faut se trouver comme par hasard? On se retrouve dans les bains, ou dans le cirque, ou à des manifestations, ou au théâtre, puis on fait semblant de tomber sur elle, par exemple. Il y a toute une stratégie amoureuse, en effet, qui, vous avez parfaitement raison, Jacques Pessy, qui va un peu dans le sens, déjà, de la théâtralisation de la vie, avec beaucoup d'humour, beaucoup de drôlerie, beaucoup de coquinerie, aussi, et qui est devenu un modèle aussi. L'ars amatoria, l'art d'aimer, a été imité, on ne peut pas imaginer. Il y a même eu une période au XIIIe siècle où on parlait de l'aetas ovidiana, de l'âge ovidien, tellement Ovid était utilisé, notamment par les troubadours et les trouvères, par la poésie amoureuse de l'époque. Il reprenait les formules, les situations, les noms des personnages qu'ils avaient empruntés à l'art d'aimer d'Ovid.
Je pense que s'il était parmi nous, Ovid, aujourd'hui, il passerait dans l'émission de Brigitte Lahaye, qui aurait une autre question.
pour cette partie de son œuvre, peut-être.
Oui, bien sûr.
Pour cette partie de son œuvre. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ça. Mais enfin, il y a ça.
Alors, il y a ça et il y a surtout la modernité. Parce que quand on lit Ovid, un poète, finalement, c'est très moderne.
C'est incroyablement moderne. C'est en contact direct avec la sensation de désir de vivre, ce que j'ai appelé désirer, en fait. Au fond, Ovid, il montre un monde habité par le désir. Peut-être que Virgile, d'autres, a monté un monde habité par le devoir. Lui, c'est par le désir. Oui. Et donc, tout le monde est un être désirant et veut profiter des choses et conquérir, plaire, séduire, ou changer de vie, d'ailleurs. C'est le désir qui mène le monde chez lui.
Avec un mot qu'il emploie, qui est la bienveillance, qui n'est pas toujours l'actualité aujourd'hui, qui est important pour lui et qui est important pour notre société d'aujourd'hui, Xavier Darcos.
Avec beaucoup de tolérance, beaucoup peut-être trop, puisque, je le répète, on a finalement trouvé qu'il était peut-être trop libertin, trop... Pas assez moralisateur, pas assez séduit aussi par l'Empire. Visiblement, il n'était pas du tout prêt à participer à la célébration de l'Empereur. Un véritable homme libre qui voit le monde comme, comme un désir. Et c'est ce qui explique aussi les métamorphoses, parce que les métamorphoses, alors c'est un livre incroyable quand même, les métamorphoses, hein. 12 000 vers, 12 livres gigantesques, qui racontent l'histoire du monde depuis la création jusqu'au vivant d'Auguste, jusqu'à l'époque d'Auguste, uniquement à travers une série de métamorphoses. Le monde est tout le temps en train de changer. Des gens qui changent, sans arrêt. Et pourquoi ils changent? Parce qu'ils sont poussés, parce qu'ils désirent être autre chose.
Alors, il y a aussi, dans ces métamorphoses, le vol d'Icare qui racontait le mythe de Narcisse, des choses qu'on apprend à l'école.
Bien entendu. Ce que je dis toujours, en fait, nous ne savons pas, mais nous vivons avec Ovide. Vous rentrez dans un musée, vous tombez sur Ovide. Voyez des nymphes qui sont coursées par quelques dieux, vous voyez des Narcisse qui se regardent dans un miroir, vous voyez, que sais-je, bon, toute la mythologie de la métamorphose a inspiré extraordinairement le baroque et toute la peinture classique française, et mondiale d'ailleurs depuis toujours. Et donc, sans Ovide, on ne comprend pas toujours ce qu'on voit dans un musée.
Et puis je pense qu'il aurait eu aussi des conversations aujourd'hui avec Brigitte Bardot, parce qu'il respecte la vie animale, Ovide, Gavilarcos.
Ovide est obsédé par l'idée qu'il y a une seule forme de vie. Que la vie des hommes, la vie des plantes, la vie des bêtes, c'est la même chose. D'où la métamorphose. On peut devenir eau, on peut devenir arbre, on peut devenir oiseau, on peut devenir n'importe quel animal. C'est généralement en fonction du caractère que l'on avait. Si on est très méchant, on deviendra plutôt lion qu'écureuil. Mais tout peut s'échanger. Et même on peut devenir Dieu. On peut se diviniser, au fond. Et donc, cette idée que... au fond, c'est un concept écologique, on dirait aujourd'hui, que tout dépend de tout, et qu'il y a une seule vie, et qu'attenter à quoi que ce soit du vivant, c'est porter atteinte à ce vivant lui-même, c'est-à-dire à soi-même.
Et puis, il fait autre chose, Ovide, Xavier Gercos, c'est à une époque où les femmes ne sont pas aussi considérées qu'aujourd'hui, il a conseillé aux maris de ne pas cloîtrer leurs femmes, ce qui était une révolution.
Oui, il leur disait que c'est la meilleure façon de rester en bonne relation dans un couple, c'était de se reposer sur la confiance, un peu de liberté. Alors évidemment, je ne sais pas si ça plaisait beaucoup à Auguste, qui avait décidé pour se persécuter d'adultère et de punir les célibataires. Mais l'idée, c'était en effet d'une communauté où la confiance, la bienveillance et la tendresse, au fond, l'emportaient sur toute autre considération. Le refus de posséder autrui, au fond.
Et puis, il y a la dépression. À une époque, elle ne se soignait pas, on a appelé ça la déprime. Jacqueline Michel a fait le premier livre dans les années 70 sur la déprime. Là aussi, le fait d'être exilé, Ovide a été le premier dépressif de l'histoire.
En tous les cas, c'est le premier qui est décrit avec une précision absolument clinique, sans s'en rendre compte, le syndrome dépressif. Au point même qu'on a pensé qu'il s'était peut-être suicidé, on n'en a aucune preuve. Mais les livres d'exil, qui sont très beaux, hein, ce sont des poèmes absolument magnifiques sur le plan humain, et sur le plan stylistique aussi. Mais ils décrivent souvent l'état d'esprit dans lequel il est, qui est celui en effet de quelqu'un qui sombre dans une profonde mélancolie, qui s'ennuie et qui ne sait pas comment donner du sens à son existence.
Bon, on est dans le premier siècle après Jésus-Christ. Pour retrouver des documents, pour écrire un livre sur Ovide, c'est pas simple, Xavier Darcos.
Oui, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur lui. J'ai essayé de lire surtout les chercheurs d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui s'intéressent à Ovide, notamment en Roumanie, puisque c'était... son lieu d'exil se trouve dans l'actuelle Roumanie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup d'Ovidiens, en fait. C'est un auteur qui continue à intéresser un grand nombre d'universitaires et de savants.
Oui, et puis, en un temps où le latin est un peu rejeté à l'école, relire Ovide et connaître cette vie-là, c'est assez important, Xavier Darcos, vous qui êtes un latiniste convaincu.
Alors, j'ai essayé de mettre pas trop de latin dans mon livre. Tout est en français, quasiment. Mais enfin, oui, c'est important surtout de voir que, contrairement à ce qu'on pense, l'expérience du passé reste très éclairante pour la modernité. Moi, ce dont je souffre le plus aujourd'hui, si tant est qu'il y a quelque chose qui me fasse souffrir, c'est cette idée que la transmission puisse se substituer, qu'on puisse lui substituer la communication. Que le fait d'échanger sur l'actualité suffise. Qu'être dans l'actuel suffise. Je ne crois pas du tout. Moi, je pense qu'il faut aller puiser dans des modèles du passé, dans des gens qui ont pris le temps d'écrire. C'est une époque où on écrivait, parce qu'aujourd'hui on écrit si peu, on communique, on fait des textos, on s'appelle. Bon. Et donc je crois beaucoup au fait que les grands écrivains restent des modèles de vie pour aujourd'hui.
Oui, c'est une leçon de savoir lire en plus, votre livre.
Savoir lire.
C'est-à-dire que c'est aussi important. On a perdu la notion de la lecture quelquefois.
Oui, oui. Et surtout, on croit qu'on peut savoir sans prendre du temps avec un livre. C'est pas vrai. Il faut apprendre, ça suppose un tout petit peu de temps.
Oui, et puis c'est des générations à former, parce qu'on risque gros dans ces cas-là.
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est un de vos combats, Xavier Darcos.
Il faut savoir.
Bon, et vous continuerez ce combat.
Je continuerai, évidemment.
En attendant, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent d'écouter, de lire Ovid, Désirer renaître survivre, chez Fayard, car on découvrira un homme, encore une fois, d'une modernité absolue. Merci de l'avoir écrit, Xavier Darcos.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'avoir participé à ces clés d'une vie, merci d'avoir été aussi précis. Continuez ce parcours à l'Institut et ailleurs, et puis nous, on se retrouve bientôt pour d'autres clés d'une vie, et restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. À bientôt.